Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va faire une lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1er. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. » Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Le verset 13 nous dit, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Et Jésus va expliquer cette parabole à ses disciples. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont eux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Je pense que si nous avons grandi dans l'Église depuis l'école du dimanche, jusqu'à maintenant, c'est un texte que nous avons lu, entendu et relu maintes et maintes fois. Mais plaise à Dieu que ce soir nous puissions le découvrir, le redécouvrir d'une manière différente. Différents terrains, un seul semeur, et pourtant il va se produire des choses différentes à chaque fois. Ce qui est marquant, c'est que nous voyons qu'à chaque fois, quand bien même les terrains sont différents, il y a quand même un point commun, et on sera d'accord ce soir pour dire cela, puisque nous avons lu le texte ensemble, c'est que tous ont entendu la parole. Tous ont pu recevoir cette semence. Dieu n'est pas venu pour faire du favoritisme, pour donner une semence, la parole à certaines personnes et pas à d'autres. Mais Dieu a une parole à donner. Et cette parole, elle est disponible. Tous ont eu cette semence, tous ont entendu la parole, mais tous ne vont pas réagir, tous ne vont pas la recevoir d'une certaine manière pour que ça puisse produire du fruit dans leur vie. Et c'est ceci qui nous intéresse ce soir, c'est de pouvoir recevoir la parole, non pas seulement avec joie, parce que nous remarquons que plusieurs, suivant le terrain, ont pu recevoir la parole avec joie, mais ce n'est pas cela qui a produit du fruit. Plusieurs ont pu être heureux, et on peut être heureux de venir à l'Église, d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de l'œuvre de la croix, de chanter ces chants, ces merveilleux cantiques que nous avons chantés juste avant. On peut être heureux de cela, mais c'est pas ça qui va produire du fruit. C'est pas cela qui va changer notre vie. Il faut un petit peu plus. Ce soir, le terrain qui nous intéresse, celui qui est venu sur mon cœur, c'est les épines. Les épines, les ronces. Au vu de ce texte, ce qu'on peut dire, c'est que comme les pierres, les épines étaient déjà là lorsque la parole a été semée. Lorsque la semence a été jetée, semée, les pierres étaient là, les épines étaient là. Et les épines, c'est particulier dans la parole de Dieu parce que ça nous renvoie dès l'origine des temps, à la fondation, lorsque Dieu a créé l'homme, la femme, à son image. On connaît ces textes, si vous ne les connaissez pas, lisez-les. C'est dans le livre de la Genèse, il y a la création, le monde, mais la créature de Dieu. Seulement, voilà, on le sait, l'homme, la femme ne vont pas obéir, vont se détourner de la pensée de Dieu pour leur vie, pour leur quotidien, leur existence, parce que dans leur cœur, il y avait ce qu'il y a dans notre propre cœur, et ce soir, peut-être que c'est ce qu'il y a dans votre cœur, c'est cette pensée de dire, mais que finalement, on peut se passer de Dieu. Et on sait ce qu'ils vont faire, ils vont désobéir, ils vont écouter la voix du diable. Il va y avoir une suite à cette désobéissance. Et on le sait, Dieu va s'adresser à la femme et va s'adresser à l'homme également. Et la conséquence, c'est que la terre va être maudite. La terre va produire des épines, des ronces. Et les épines, c'est cela. Les épines qu'il y a dans notre cœur, dans notre vie, et on comprend pourquoi elles étaient déjà là avant la semence, pourquoi malgré tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, sans Dieu, les ronces et les épines demeurent, parce que la parole nous le dit d'une manière différente, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire, sont privés de la présence de Dieu. Et je peux essayer d'acheter le meilleur désherbant possible que je puisse trouver ici-bas, le Roundup ou ce que vous voulez, ça ne pourra jamais enlever les épines de mon âme. C'est pas possible. Parce que cette désobéissance a entraîné la chute de l'humanité et cette séparation d'avec Dieu. Les épines sont là. Et on le sait, on vit avec. C'est pas facile de vivre avec des épines, avec des ronces dans notre cœur. C'est pas facile d'essayer d'évoluer avec cela. Et on voit que dans le cadre de cet exemple, de cette parabole qui nous est donnée, on voit que ça encombre notre cœur. On a besoin de vivre différemment. On a besoin, et pour changer, et Michael l'a introduit lorsqu'il a présenté les chants, on a besoin de laisser cette parole de Dieu pénétrer notre âme. On a besoin de la voir produire du fruit en nous. Sinon, c'est ce qui se passe dans ce texte, la parole est étouffée, la parole ne peut pas produire son fruit. Et on peut essayer par différentes manières de changer cela, c'est impossible. C'est impossible. On peut dire, et vous allez me dire ce soir, oui, mais alors quelle est la solution? Si les épines sont là, dans notre vie, si le péché est là et qu'on ne peut rien changer, que pouvons-nous faire? Mais et c'est évident, et merci Seigneur, parce que quand même Jésus est venu en disant, mais si je ne suis pas venu, du moins, pour ceux qui pensent qu'ils se portent bien, je ne suis pas venu pour ceux qui se sentent justes, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Et ce qui est rassurant, c'est de comprendre que tels que nous sommes, nous pouvons venir vers Dieu. Avec nos ronces, avec nos épines, avec notre péché, nous pouvons venir et nous devons même venir vers Dieu. Nous devons le laisser agir en nous pour voir notre vie transformée. Tel que je suis, on chante quelquefois ce chant, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. En moi, je n'ai pas la solution, mais merci Seigneur, parce que lui a la solution. Seulement voilà, à la lumière de ce texte, on comprend, et c'est là ce qui nous importe ce soir, on comprend qu'on peut bloquer complètement la parole de Dieu. On l'a lu ensemble, on peut la bloquer. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, ça ne sera jamais la parole de Dieu. Ça ne sera jamais Jésus. Ça ne sera jamais Dieu le problème. Ce n'est pas possible. C'est nous. On aurait pu être rassuré s'il était question que des soucis, parce qu'après tout, ça aurait pu nous déculpabiliser en disant « mais voilà, c'est normal, j'ai problème sur problème, difficulté sur difficulté, après tout, c'est la vie qui m'a conduit ainsi ». Et si ça avait été écrit de la sorte, on aurait pu se déculpabiliser en disant « ben voilà, je fais ce que je peux, mais après tout, la parole de Dieu n'est pas suffisamment puissante pour venir agir dans ma vie ». On entend quelquefois des personnes dire cela, des personnes dire « ah mais Dieu n'a pas été assez puissant pour intervenir dans cette situation », ce n'est pas vrai. La réalité de cette parabole exprime une réalité spirituelle profonde, c'est que l'homme a toujours un cœur partagé, a toujours en lui cette possibilité que finalement il peut s'en sortir. J'ai des soucis, des difficultés, mais il y a quand même la séduction, il y a quand même l'attrait du monde, il y a quand même en moi cette pensée de dire que je peux y arriver tout seul, à désherber le champ de ma vie. Je peux arriver tout seul à prendre le dessus dans les difficultés, dans ce que je peux traverser, dans les épreuves. Et j'ai beau essayer de couper quelques ronces, elles repousseront tôt ou tard. J'ai beau essayer d'acheter la meilleure débroussailleuse possible, la débroussailleuse auto-tractée, ce que vous voulez, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Ce texte est là pour que nous puissions peut-être apprendre une fois de plus que face à l'œuvre de la croix, on doit prendre position. Jésus nous appelle à prendre position. Non pas que ça veut dire que finalement nous pouvons avoir la solution, mais ça veut dire qu'on commence à comprendre que effectivement, si moi je ne peux rien, si j'ai besoin de Dieu, je dois laisser sa parole pénétrer mon âme. Je dois comprendre que j'ai beau tout essayer ici-bas, je me retrouverai toujours confronté à un néant, à un vide, et je dois comprendre que c'est seulement Christ, seulement l'œuvre de la croix qui pourra changer mon existence. Je dois comprendre que peut-être il en est assez que j'étouffe la parole de Dieu, que peut-être j'arrive à un stade dans ma vie où ça suffit de rendre infructueuse la parole de Dieu. C'est quand même dramatique d'arriver à fréquenter une église, d'arriver à entendre parler de Dieu, d'arriver à lire la Bible, et pourtant tout ce que nous faisons ne peut pas porter de fruit en nous. C'est quand même dramatique d'arriver dans notre vie à se poser, à faire le point en disant « mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que rien ne change ?» Et ce texte nous éclaire, parce qu'on étouffe, parce qu'on la rend infructueuse, la parole de Dieu. Parce que les épines, parce que les ronces étouffent l'action de Dieu. Pourtant, vous allez me dire, il y a ce texte qu'on connaît, la parole de Dieu, ma parole ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Alors on peut se poser la question, finalement d'un côté, on voit Dieu qui proclame que sa parole exécute sa volonté, et d'un côté, on voit que la parole est étouffée. Ça vous a jamais questionné? Ça vous a jamais surpris? Finalement, est-ce que Dieu se contredit? Ben non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a cette limite, entre guillemets. Dieu ne pourra jamais au-delà de notre cœur, au-delà de notre volonté. Dieu ne nous forcera jamais. Ce n'est pas possible. Sa parole, sa volonté, c'est que tous puissent parvenir à l'excellence de la connaissance de Christ. Et Dieu mettra tout en œuvre pour que nous puissions entendre la vérité, pour que nous puissions comprendre que nous sommes perdus, que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin peut-être d'écouter ce que Dieu dit, plutôt que d'arrêter d'écouter le monde, plutôt que de chercher dans le monde des conseils. Peut-être c'est le temps de se tourner vers lui, mais Dieu ne nous forcera jamais. Dieu ne prendra jamais de lui-même une faucille pour venir enlever les ronces. Il attendra toujours notre permission. Et c'est quand même une bénédiction, quelle délicatesse, de savoir que nous avons un Dieu qui respecte ce que nous sommes. Et c'est à nous, peut-être, de méditer et de voir qu'est-ce qui pourrait changer dans notre vie pour que la parole de Dieu puisse porter du fruit. Et c'est là la conclusion de cette parabole, d'ailleurs. Parce que on l'a lu ensemble, on est tous d'accord. Tous ont entendu la parole de Dieu, tous l'ont reçue, et d'ailleurs, certains l'ont reçue avec joie. Mais simplement, tous n'ont pas porté du fruit. Et c'est ce fruit-là qui nous intéresse. C'est la vie de Dieu qui nous intéresse. Ce n'est pas une joie éphémère parce que je me sens un petit peu mieux, parce que j'ai été apaisé dans mon mal-être, mais 4 matins plus tard, je retombe dans ce même mal-être. Ce n'est pas ça qui doit nous intéresser, nous interpeller. Ce n'est pas de dire que peut-être je peux aspirer à aller mieux. Ce n'est pas ça. C'est d'entendre, recevoir, mais de porter du fruit. Il faut que la parole fasse germer la vie de Dieu en nous. C'est cela le plus important. C'est cela qui doit obséder notre pensée. C'est cela qui doit nous conduire jusqu'à la croix, jusqu'à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est cela qui doit me faire prendre conscience et connaissance que je suis pécheur et que sans cette vie de Dieu qui peut germer en moi et produire du fruit, je suis perdu. C'est pas possible autrement. Et la parole, ce qu'elle désire faire germer en premier dans notre cœur, ça sera toujours la repentance en premier. C'est cela le message de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour nous racheter de cette malédiction. Jésus est venu pour enlever toutes les ronces de nos vies, toutes ces épines qui nous font souffrir, qui nous heurtent, qui nous blessent. À chaque fois que peut-être on repense à un souvenir, à chaque fois que le passé se ramène à nous et qui vient griffer, blesser, déchirer notre cœur, cette vie qui est là, qui ne peut pas voir de rayon de soleil, cette lumière, l'étoile du matin, ne pourra pas venir éclairer notre âme tant que nous ne voulons pas que la parole de Dieu fasse germer la repentance qui nous amène à cette vie. Et c'est cela que Jésus-Christ veut manifester, et le message de l'Évangile, c'est cela. Il y a un seul chemin qui nous mène vers ça. Il n'y a pas d'autre chemin. Et vous l'aurez compris, c'est Jésus-Christ le chemin. Et d'ailleurs, Jésus va reprendre cette image. À un moment donné, il va dire, mais voilà, l'heure est venue, que le Fils soit glorifié. L'heure est venue où je dois monter à Jérusalem. L'heure est venue où je dois passer par la croix. Et l'image que Michaël a prise est excellente. On pourrait dire l'heure est venue où il faut que je puisse m'offrir pour vous. Et il va imager cela en disant le grain de blé qui est tombé à terre, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Le grain de blé, cette semence qui peut porter la vie, cette semence qui peut nous apporter la vie, cette parole qui peut produire la vie que le monde ne pourra jamais nous donner. Le monde peut essayer de la copier, le monde peut essayer de copier la lumière, le monde peut essayer de copier la paix, la joie, mais ça restera qu'une copie. Ça ne restera et ça ne sera jamais la vérité. Il faut que le grain de blé tombe en terre, meure, pour produire du fruit. Je l'ai cité tout à l'heure, et c'est dans Galates, chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. » Le sol, la terre, a été maudite, le sol a été condamné par le péché, et Christ est venu pour nous racheter, pour prendre, pour que nous puissions être récupérés par l'œuvre et par l'œuvre de la croix. Il y a ce texte, et on pourrait le lire ensemble, c'est juste un verset, c'est dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Au chapitre 2. Peut-être vous m'avez vu venir là. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut roi des Juifs » et il lui donnait des soufflets. Ça a eu un prix pour Christ de nous racheter de la malédiction. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parallèle entre ce qu'on partage, cette couronne d'épines. Les épines, c'était la malédiction de Dieu, les conséquences du péché. Et ce que Jésus a fait, c'est que, comme le dit le texte dans Galates, c'est qu'il a pris cette malédiction sur lui. Il a pris toutes nos ronces, toutes nos épines, toutes nos souffrances, tout notre péché. Il a pris pour que nous puissions être libérés. Il a offert sa vie sur le bois de la croix. Il a offert ses mains comme nous l'avons chanté. Il a laissé couler son sang pour que nous puissions avoir une solution ici-bas. Parce que la Bible nous encourage et nous engage à nous préparer à la rencontre de notre Créateur. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui ne puisse faire dans notre vie. Il n'y a aucune malédiction qui ne puisse porter. Il n'y a aucun péché qui ne puisse effacer, si ce n'est celui dont parle l'Écriture, mais il n'est pas question de cela ce soir. Il n'y a aucun péché dont tu puisses être pardonné, dont vous puissiez être pardonné ce soir. Mais ce qui doit germer dans votre cœur, c'est la repentance. Pour que la vie de Christ puisse venir en vous, il faut que vous puissiez lui demander pardon pour tous vos péchés. Alors ce soir, et je termine, en reprenant ce verset qui peut-être peut faire frémir ce soir, les convoitises, les richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ce soir, on peut partir, même sans partir, vous savez, on peut être ici, et rendre la parole infructueuse. C'est-à-dire qu'on ne la laisse pas nous pénétrer. Les épines étouffent la semence. Mais on peut quand même, on peut, parce que Jésus-Christ a payé le prix, on peut quand même lui permettre de venir, on peut quand même lui permettre de prendre la direction, le contrôle de notre vie pour qu'il puisse nous mener sur ce chemin et le chemin de la vie éternelle. On peut prier le Seigneur un instant ? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as rappelé. Merci parce que nous croyons que tu as pris notre malédiction. Nous croyons que tu t'es offert pour nous apporter, pour nous donner la vie en abondance. Et ce soir, nous voulons considérer ce que tu nous dis. Seigneur, je te prie qu'aucun ce soir ne parte en rendant ta parole infructueuse, en l'étouffant. Infructueuse, ça veut dire stérile, qu'elle ne puisse produire la vie. Nous croyons que tu es le Dieu de la vie. Nous croyons que tu veux communiquer cette vie à quelqu'un, que tu es celui qui pardonne, que tu es celui qui restaure, tu es celui qui veut nous diriger et nous conduire. Alors Seigneur, mon Dieu, je te prie ce soir de pouvoir donner cette direction, cette conviction à quelqu'un, afin qu'il puisse être dirigé et se laisser diriger par toi. Merci pour tout ce que tu vas faire, mon Dieu. Reçois notre reconnaissance et notre louange pour ton sacrifice, Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.